gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Vous êtes bien sur le 102.2 de Radio Canu. C'est bien la causerie qui démarre. Bon, allez, un peu plus de d'entrain et de joie de vivre. C'était un mini hommage à Dead Moon Knight qui ne sera plus avant nous. Voilà. J'ai essayé. Ben, bon, ça n'a pas super bien marché.
T'es pas dans l'ambiance.
Bah non, comme quoi.
Mais oui, t'as raison. On fait un coucou aux copains et copines qui ont animé pendant quelques mois, peut-être années même,
années.
Dead Moon Knight avant nous, qui permettait de déprimer tranquillement le dimanche soir. Eh ben, il n'y a plus de Dead Moon Knight, mais il reste les dimanches soirs à déprimer. À vous de trouver une occupation pour contrer cela.
C'est ça, en plus il pleut aujourd'hui à Lyon et tout. Et alors ce soir à la technique, il y a Clara.
Bonsoir.
Et autour de la table, il y a Jean-Yves.
Bonsoir, et Fab qui faisait l'ouverture.
Bonsoir. Et donc, si tu veux nous joindre, lacausericanu@gmail.com, tout attaché, lacausericanu@gmail.com. Si tu veux nous réécouter, c'est sur blogs.radiocanu.org/lacauserie, blog avec un S donc, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Tu nous trouves aussi sur les podcasts, à droite à gauche, donc tu tapes, plus souvent à gauche qu'à droite, et tu tapes La Causerie Canu, et tu devrais nous trouver. Voilà, tu nous trouve aussi sur un truc socio-commercial appelé Facebook, mais là on fait que de la promo parce que c'est la partie commerciale de la causerie.
Voilà. Bon, elle est très limitée quand même là.
Ça rapporte que dalle, mais c'est surtout que si ça permet aux gens qui sont sur ce réseau de trouver la causerie. Et je remercie aussi ceux qui et celles qui nous partagent ailleurs sur des tweets, sur des mastodontes, sur des trucs comme ça. Et on a découvert ça et c'est super sympa de votre part parce que ça nous aide à nous faire connaître.
On n'a pas de mail, mais on a du partage.
Ouais,
enfin,
voilà.
On a quand même reçu un mail depuis la semaine dernière.
Oui,
on remercie d'ailleurs la personne pour cet humour sans faille. voilà.
Une petite blagounette. Et donc du coup,
je crois qu'on a tout dit.
Ouais.
Hein. C'est Fab qui débute cette causerie.
Oui.
Et tu vas mettre un petit coup à l'ostéopathie.
C'est cette petite arnaque qui craque, comme je l'ai appelé. Alors on va rappeler d'abord ce qu'est l'ostéopathie, quand même. On va prendre la définition. Alors parce que combien de fois vous n'avez pas entendu des proches, des collègues de travail vous dire « T'as mal au dos ? Tu devrais voir mon ostéopathe, il est génial. » Ou « J'avais mal au dos et depuis que je le vois, je n'ai plus rien. » Ou plus inquiétant « Tu sais, mon mal de dos, mon ostéo me dit que c'est lié à mes soucis avant tout. » Voilà. Du coup, c'est quoi l'ostéopathie ? Parce que c'est comme un truc, voilà. Donc, la définition officielle retenue en France, c'est que c'est une médecine non conventionnelle qui repose sur l'idée que des manipulations manuelles du système musculo-squelettique et des techniques de relâchement myofascial permettraient d'apporter un soulagement dans le domaine du trouble fonctionnel. Voilà. En France, elle est aujourd'hui partiellement réglementée, mais considérée comme non scientifique pour certains de ses aspects. Mmh. Voilà, je remercie Wikipédia, pas non plus, je vais chercher ça sur Wikipédia. Alors, elle sort d'où, cette fameuse technique d'ostéopathie? Parce que c'est peut-être ça quand même qui est intéressant. Eh ben, c'est un truc qui a été inventé au 19e siècle. Ah. Vous savez, ce siècle où on inventait plein de choses et on croyait aux fantômes aussi, le spiritisme, tout ça. Et quand je dis inventé, c'est bien parce que ce n'est pas une découverte scientifique basée sur les travaux de dizaines de chercheuses et chercheurs. Par exemple, quand on dit Pasteur a inventé le vaccin, en fait, Pasteur, il avait plein de gens autour de lui qui réfléchissaient déjà à ça. Il n'était pas tout seul, vous voyez.
Oui, enfin, et puis pour que ce soit accepté, il y a une démonstration. Ah,
et puis il a démontré que ça marchait aussi, accessoirement. Non, en fait, c'est une croyance hein, codifiée par un seul homme. Andrew Taylor Steele. Voilà. Pendant une épidémie de dysenterie, il aurait, ouvrez les guillemets, sauvé par des manipulations du corps plus d'une dizaine de jeunes enfants. Fermez les guillemets. Ça, c'est sur le site officiel de l'ostéopathie.org que j'ai trouvé ça.
Il y en a d'autres qui ont ouvert la mer en deux. Et
bah, lui, il a sauvé des enfants de la dysenterie. l'homme est d'ailleurs un mystique hein, qui rejette très vite la médecine traditionnelle américaine. Bah, il est américain, hein, je précise. Et il affirme, c'est lui hein, qui parle, soigner avec ses mains et pouvoir tordre un homme d'une certaine manière et le guérir de la dysenterie, la fièvre, les rhumes et les maladies liées aux conditions climatiques, secouer un enfant et stopper une fièvre scarlatine, le croup, la diphtérie et guérir la coqueluche en 3 jours par une torsion du cou de l'enfant. Etc, etc, etc. Parce que j'ai pas pris toute la citation, il y a encore plein de maladies derrière.
Ouais, et je pense qu'avec ça, il te nettoie même les jantes. Non je sais pas.
Ça fait vraiment un petit coup de polish.
Oui, ça fait vraiment.
Bah, ça fait surtout que quand vous recevez ça dans votre boîte, quand vous recevez ça dans votre boîte aux lettres, vous savez que c'est un marabout qui peut ramener l'argent, la femme, le machin. Ça vous fait rire. Là, dites-vous quand même que le gars, il écrit ça très sérieusement. Ça devrait vous faire rire aussi, mais en France, a priori, il y a plein de gens qui vont voir des ostéopathes. Bon, alors, auditrices et auditeurs de la causerie, vous vous dites, tiens, ça pue un peu l'arnaque ce truc, parce que ce sont quand même des maladies qui souvent passent chez certaines personnes, hein, parce que tout ce que j'ai cité sont des maladies en fait qui des fois sont dites transitoires, c'est-à-dire qu'elles passent, et puis un seul homme ne peut pas trouver à lui seul une théorie de soins, et tu as bien raison. Auditrices et auditeurs.
Et je me demande même s'il n'y a pas des auditeurs et des auditrices qui sont en train de se dire « Ah non, quand même, l'ostéopathie, ça marche. »
Si, mais j'aimerais qu'ils m'écrivent. parce que vous avez repéré que finalement, l'ostéopathie repose sur des préceptes d'un seul homme. Comme l'homéopathie.
Ouais, bonjour l'homéopathie.
Ou comme les préceptes de Rudolf Steiner.
Eh oui.
En médecine ou en agriculture pour Steiner, parce que lui, il tapait large. Hein, voilà, bon. Et vous savez que cela sent, du coup, un tout petit peu beaucoup la secte et le sectarisme à plein nez, et non la science. Donc voilà. Et c'est surtout de la non-science, comme on dit, à l'état assez brut. Alors, faut savoir que l'ostéopathie, pardon, c'est un truc très français. Paradoxalement. Bah ouais. Parce que même aux États-Unis, c'est plus trop à la mode. Voilà, ce qui est marrant, hein, parce qu'on aurait pu se dire qu'il était américain, donc voilà. C'est en France que c'est le top du chapeau. Et en Europe, c'est en France que l'on trouve le plus d'ostéopathes. Alors quand je dis le plus, c'est des rapports de quasiment plusieurs milliers versus un ou deux. Vous voyez, c'est...
Ah ouais.
Voilà, par exemple, enfin, j'ai plus les chiffres exacts, je vais pas vous les donner, parce que sinon je dis une bêtise et on va me dire là. Mais il me semble qu'en France, on doit être autour de 17 000 praticiens, un truc dans le genre. Alors que dans des pays européens autour de nous, ils sont une dizaine ou une vingtaine, vous voyez.
Donc, ah oui.
C'est, ouais. Donc c'est vraiment en France que ça, le vent en poupe. Alors on peut être surpris, hein. Bon, vous êtes donc surpris? Vous êtes heureux,
oui. Ben, un petit peu toujours.
Eh ben, vous savez bien que c'est aussi en France que l'on trouve aussi le plus d'homéopathes. Et oui, parce que la France a battu aussi l'Allemagne de ce côté-là. Ces deux disciplines hein, sont aidées depuis quand même des décennies par le fait que l'on a estimé pendant des années que cela pouvait entrer dans les parcours de soins. Et ouais, et ça aide hein, quand on vous dit on peut bien rembourser quand même ça parce que ça fait pas de mal, vous voyez. Bon, et qu'il a quand même fallu des siècles hein, pour que l'on se penche sur l'utilité de ces médecines dites non conventionnelles, parce que ça se voit. Sauf que récemment, une étude a été faite sur l'ostéopathie et le résultat, pour le sceptique que je suis, hein, parce que je suis un sceptique, n'est pas une surprise. L'ostéopathie ou placebo. Même combat, même effet. Voilà. Et en fait, c'est une étude qui est scientifiquement rigoureuse, hein, qui a été menée au sein de l'APHP Hôpital Cochin, donc c'est en région parisienne, qu'il démontre en fait sans ambiguïté. Alors, ça a été mené sur plus de 400 personnes, parce que je vous rappelle que pour qu'une étude soit validée, il faut qu'il y ait un panel quand même suffisant pour quand même on puisse tirer le cas, parce que il y a plein d'études sur l'ostéopathie qui sont faites sur des panels de 10 personnes. Alors, c'est aussi crédible que quand la crème de jour permet de diminuer les cernes, les rides, tout comme ça, et vous regardez en bas, c'est sur un panel de 9 personnes. Bon, laissez tomber, ça n'a aucun intérêt.
Mais, voilà. Pardon, mais est-ce que 400, c'est suffisant?
Alors, c'est significativement suffisant pour faire des statistiques.
Okay.
En fait, on estime qu'un groupe doit faire à minima 300 personnes, okay, donc 400 ouais. on est au-dessus. Ouais. Et pour ce genre de choses, c'est plus simple quand même de trouver déjà, enfin c'est pas simple, pardon, de trouver 400 personnes. Et donc on estime que c'est un groupe qui est significatif, okay. parce que bah, trouver 400 personnes qui sont atteintes de lombalgie, parce ouais. qu'ils ont quand même tapé sur une spécialité française de l'ostéopathie qui est le soin de la lombalgie, hein, parce que je vous rappelle que, hein, je vous redis au début, t'as mal au dos, mais va voir mon ostéopathe, il est génial. Donc ces 400 personnes, elles ont été suivies entre des gens qui subissaient des actes issus de l'ostéopathie, donc aller voir un ostéopathe, hein, très clairement, et ceux qui subissaient en fait une manipulation factice ou alors des soins traditionnels, c'est-à-dire pour le kiné, aller faire de la piscine, vous voyez, des choses qu'on vous dit quand vous avez mal au dos, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, eh bien, bingo, je vous le donne en mille, aucune différence de ressenti dans l'apport entre les uns et les autres. Tous affirmaient que ça leur avait été plutôt positif. Alors, je vous rappelle que tous étaient persuadés d'être soignés par ostéopathie. Mmh. C'est le principe d'une étude. C'est-à-dire que vous dites pas aux ceux qui ont un placebo qu'ils ont un placebo. Sinon, ça marche pas. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, donc tous disaient, ah, c'est génial, moi, ça m'a fait du bien. Mais les 400. Sauf ouais. qu'ils étaient que 200 à avoir eu vraiment de l'ostéopathie. Voilà. Donc, je vais donc citer l'étude, hein, parce que là, je pourrais écrire une étude. Alors. Le critère d'évaluation principal a été la diminution du ressentiment de la lombalgie sur les activités de la vie quotidienne à 3 mois, mesuré par le score de Québec. Alors, le score de Québec, c'est ce qu'on vous dit à l'hôpital. Vous savez, des fois, on vous dit, alors, vous avez mal ou pas? Alors, dites-moi entre 0 et 100.
Ok.
Vous savez où vous vous situez votre douleur?
Mais c'est 0 et 100 aussi sur en France? Il n'y a pas un truc qui était sorti sur la douleur ça peut entre être... 0 et 10
ouais, ou... c'est... En fait, des fois, il est simplifié en 0 et okay. 10, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le score de Québec. Hein. Okay. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'était pour vous dire que vous avez déjà sûrement été interrogé là-dessus.
Oui, c'est l'échelle de douleur.
C'est l'échelle de douleur, voilà, tout simplement. Le critère de jugement secondaire a été la douleur, la qualité de vie, le nombre et la durée des arrêts maladie, le nombre d'épisodes de lombalgie et la consommation de médicaments à 3 et à 12 mois. Après le soin à l'hôpital. Les événements indésirables ont été recueillis à 3, 6 et 12 mois. Donc vous voyez, tout le monde a subi le même questionnaire, aux mêmes distances et tout. Et l'étude s'est étalée sur plusieurs années, hein, quand même. Hein.
Ok.
Voilà. Je dis une bêtise, pardon, c'est moi-même, je me. Hein. Le score de Québec, c'est le ressentiment. Voilà, ouais, le retentissement de la lombalgie sur les activités. C'est-à-dire, est-ce que ça me gêne ou pas, oui, okay. pour faire quelque chose? Mmh. C'est pour ça que c'est de 0 à 100. Okay. Et c'est pas le score de la douleur. C'est le deuxième qui est à 0 à 10 et qui est le score de la douleur. Ouais. Merci. Donc, à 3 mois, la réduction moyenne du score de Québec, hein, donc, c'est-à-dire de trucs, qu'est-ce que ça me gêne dans ma vie, était de moins 4,7 points. Alors, avec un indice de confiance qui voyait de moins 6,6 à moins 2,8. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites une étude, bah, en fait, des statistiques. Donc, sur 200 personnes, il y a des gens, ils vont vous donner des chiffres ronds, d'autres des chiffres à 3, d'autres chiffres après les virgules. Donc, vous allez moyenner pour avoir quelque chose. Et quand vous faites une moyenne, en fait, on fait ce qu'on appelle un indice de confiance. C'est-à-dire, est-ce que ma moyenne, elle est juste à statistiquement parlant. Donc, ça, c'était dans le groupe qui ont ostéopathie. Et moins 1,3 points, mais avec un indice de confiance qui va de moins 3,3 à 0,6 pour le groupe placebo. Et en fait, ça veut dire qu'en réalité, la différence entre ces deux groupes, quand vous faites statistiquement l'étude, c'est un calcul, les statistiques, c'est pas que la moyenne, et ben en fait, l'écart est de 0,01. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas d'écart.
Pas d'écart, en fait.
Et c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez les indices de confiance des deux côtés, que vous faites ce qu'on appelle une moyenne lissée, voilà. Ben en fait, vous n'avez pas d'écart. Ça veut dire qu'en réalité, ostéopathie ou pas ostéopathie, vous avez exactement le même ressenti.
Oui, et voilà. Ben oui. Ah oui, j'allais dire la même évolution d'eux, mais non,
oui,
en fait,
c'est le même ressenti.
Voilà. Okay.
À 12 mois, la différence, elle va être à peu près la même. Et c'est même plus intéressant, c'est que c'est du côté des gens qui ont des soins traditionnels que le ressenti va être moindre. Il y a un léger écart en bénéfice du soin traditionnel. Okay. Donc, en fait, pour eux, aucune différence statistiquement significative sur les critères de jugement secondaire qui ont été constatés. Tout simplement parce qu'en fait, la critère secondaire, c'était la consommation de médoc et tout, et que tout le monde continuait à prendre ses médicaments, tout ça, machin et tout. 4 événements indésirables graves ont été déclarés, hein, dans le groupe des groupes ostéopathie, mais aucun n'a été considéré en lien avec le traitement ostéopathique.
Okay.
Voilà. Je le précise parce que c'est aussi précisé. Donc, et oui, donc rien ne démontre l'efficacité de l'ostéopathie. C'est ni mieux ni pire. Voilà. Mais c'est même pire que ça, hein, c'est que c'est la démonstration exacte de ce qu'est un effet placebo. C'est-à-dire, voilà, c'est... Bah, en fait, vous pensez que ça vous fait du bien, donc vous allez mieux. C'est l'effet placebo, c'est typiquement. Alors, il y a plein d'effets placebo dans votre vie, je vais vous en citer un. C'est que vous avez froid, vous êtes dehors, vous avez froid, vous pensez à un feu de cheminée, vous avez moins froid. Pourtant, il fait toujours aussi froid, mais c'est parce que dans votre conditionnement, vous arrivez à vous dire « Ah, ça, il fait un peu plus chaud ». Bon, 10 minutes après, vous êtes de nouveau très très froid, mais mais c'est un effet placebo. C'est-à-dire que vous savez que ça existe dans plein de cas. Voilà. Il y en a un autre connu, c'est le « Je me tape le doigt de pied dans une chaise ou dans un truc, j'ai très 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 très, très mal, et du coup je crie, et le fait de crier me fait donne l'impression que je vais mieux. » Mais en fait, c'est juste un effet que vous créez dans votre corps, c'est que vous occupez votre cerveau à crier, donc ça vous fait moins mal. Bon, voilà. Donc une étude sur moins de monde a été menée au Canada, et elle démontrait, elle, qu'entre un bain chaud régulier ou des séances d'ostéopathie, les effets étaient les mêmes. Voilà. Ah oui. donc voilà, ils l'ont démontré, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, il y avait une grande discussion entre le Québec, qui est francophone, et l'Ontario, qui est anglophone, sur le remboursement de l'ostéopathie.
Okay.
C'était remboursé au Québec, où il y a énormément d'immigrés français. voilà, donc, eh ben oui. En clair, cela démontre une chose
d'expat.
Ouais,
nuance.
C'est la même chose. Bon, en clair, cela démontre une chose qui est connue. Quand on prend du temps pour soi, quand on est persuadé que c'est de faire du bien, cela a un effet positif sur nos vies. Un exemple, hein, si vous êtes comme moi, fan de cinéma, et que vous avez mal au dos, comme moi, ça m'arrive régulièrement, le fait d'aller voir un bon film, bah, ça va vous faire oublier votre douleur le temps du film, voire un peu au-delà du film. Parce que vous serez dans ce que vous avez vu, vous êtes bien, vous avez kiffé, vous dites « Ah, j'adorais comment l'acteur y jouait, ce machin et tout ». Mais enfin, vous n'êtes pas soigné, hein, parce que après, ça se rappelle à vous. En fait, c'est juste un effet connu, hein, qui n'a rien de nouveau. Mais ce n'est clairement pas du soin au sens médical.
Oui.
Ouais, c'est un peu comme si on venait à dire que le massage était un soin. Ça, souvent, on joue là-dessus, on fait un soin par le massage. Non, en fait, le massage, c'est du bien-être.
Oui.
Ça ne soigne pas. C'est pas un soin, en premier lieu. Mmh. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on pourrait se dire c'est pas si grave. Parce qu'après tout, chacun fait ce qu'il veut, puis s'il veut payer son ostéopathe,
oui, c'est un dérivatif, hein, je sais pas comment dire. C'est un...
Bah, sauf qu'en fait, le problème, c'est que, bah, y a un rapport de la Miviludes. Amivilude, c'est, vous savez, c'est cet organisme qui est chargé de lutter contre les dérives sectaires. Voilà. Et dans ce rapport, eh ben, ils ont quand même souligné que l'ostéopathie, c'était une sacrée porte d'entrée pour plein de charlatans et plein de dérives sectaires. Donc, j'entends déjà un qui va me dire, oui, mais bon, ça fait pas de mal, blablabla. Sauf que, ben, hein, si on se base que là-dessus, on accepte l'idée que la sécurité sociale, par contre, par exemple, rembourse tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, je sais que le chocolat, ça me fait du bien quand je suis un peu déprimé. Donc, je vois bien comment rembourse ma tablette de chocolat. Mais au-delà de ça, on sait maintenant que l'ostéopathie, hein, comme l'homéopathie, ce que je disais, ou les pratiques de Steiner, dont on a déjà parlé dans l'émission, sont des portes d'entrée. Hein. Donc, comme je disais, pour les mouvements sectaires, les religions et les abus. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui ont posé plainte et témoigné que leur ostéopathe, qu'elles voyaient comme un médecin, mais qui ne l'étaient pas, en fait, hein, parce qu'ils jouent sur cette ambiguïté, et les gens qui sont installés comme ostéopathes, mais qui n'ont pas de diplôme de médecine, leur avaient demandé d'être nus dans leur cabinet pour les manipuler. C'était plus pratique, pareil. Donc elles se sont, elles ont quand même parlé pour certaines de palpations de la poitrine et des fesses, mais qu'elles voyaient plus comme une atteinte plutôt qu'une palpation médicale, vous voyez.
Oui.
C'est vrai. Pour d'autres, de l'introduction de doigts dans l'anus et dans le vagin, hein, quand même. Des hommes ont aussi témoigné, d'ailleurs, que de doigts introduits dans l'anus, hein, pour info. Soi-disant, parce que c'est une technique infaillible pour replacer le bassin.
Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Alors, tiens, moi, oui, bah,
non, pas sérieusement, les personnes ont rapporté ça. Sérieusement, il y a un gars qui arrive à se dire.
Ah, c'est pas un, hein, c'est des.
Ah ouais, ok, ouais, donc c'est vraiment une pratique courante.
Oui, je vous ai pas dit, c'est dès remonté, c'est sur toute la France, donc c'est pas
un cas isolé.
Parce que sinon on pourrait se dire il y a un malade dans tout ça, sauf qu'en fait, enfin malade, non, j'aime pas ce terme-là d'ailleurs, il y a une personne abusive dans tout ça, sauf qu'en fait non, c'est plusieurs personnes, plusieurs praticiens, plusieurs endroits. Et voilà, donc, et pas les mêmes femmes, ni les mêmes hommes. Donc à un moment donné, il y a une vraie dérive, quoi. Alors, tiens, une autre idée reçue, hein, qui est passée dans le langage courant. Non, les os et les organes ne se déplacent pas, sauf choc énorme. Et quand c'est le cas, c'est pas une toute petite douleur que vous avez en général. Hein. On ne peut pas replacer votre foie. le foie, lui, il flotte, il va bien. On peut pas. Pas plus que l'on ne peut remettre une vertèbre déplacée. Parce que si vous aviez une vertèbre réellement déplacée, croyez-moi, vous allez le remarquer très vite, vous serez paralysé, hein. Donc ça se voit vite. Parce qu'une vertèbre, c'est un tout ou rien. C'est un on-off. Donc quand on se déplace une vertèbre, ça comprime le rachis ou ça comprime la moelle épinière. Et en général, on le sait très vite, hein. C'est-à-dire, tiens, mes jambes bougent plus. Donc, tout simplement. Ou les bras, voilà. Donc ce langage ésotérique, en réalité, a été popularisé en même temps que le retour de l'ostéopathie dans les années 70 en France. Mmh. Et c'est comme ça qu'on fait passer quelque chose pour être sérieux aussi, c'est pas le langage. Et je passe, hein, d'ailleurs sur les nombreux ostéopathes qui conseillent des méthodes issues du développement personnel et autres méthodes crénios entraînant plus de mal que de bien, très clairement. Comme on en a déjà parlé dans la causerie, dès qu'on vous parle de développement personnel, vous prenez vos pieds, vous faites demi-tour et barrez-vous parce que c'est un charlatan que vous avez en face de vous. Et oui, il existe des diplômes d'ostéopathie comme d'homéopathie. Oui, c'est vrai. Mais il existe aussi des diplômes de sorcellerie ou de médiumnité. Hein, je vous jure, c'est vrai. J'ai trouvé des cours, si vous voulez, je vous enverrai les liens. donc, s'il suffisait qu'un diplôme existe pour qu'une chose soit viable, bah, ça serait en fait. Hein, parce que voilà. Et d'ailleurs, il existe aussi le diplôme du meilleur employé du mois, hein, ou de la plus meilleure des mamans. Hein, mais tout ça, c'est du flan. pardon. Donc, il est temps quand même de démonter le mythe très prégnante de l'ostéopathie en France et ailleurs pour la renvoyer à ce qu'elle est. Une non-science, une croyance et un moyen de penser, se faire du bien. Il faut rapidement que les méthodes ostéopathiques soient scientifiquement évaluées, mais qu'elles soient surtout confrontées aux risques potentiels qu'elles peuvent induire. Parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui commencent, et notamment des spécialistes des articulations, qui commencent à souligner que ce regain de l'ostéopathie à toutes les sauces, et notamment, ils le soulignent chez les sportifs, c'est-à-dire les gens qui pratiquent le sport et qui se retrouvent tous à avoir un ostéopathe parce que le club, il leur a dit qu'il fallait voir. Bah, en fait, ils se retrouvent avec des gens qui ont des blessures ou des marqueurs qui sont pas logiques. C'est-à-dire qu'ils viennent de mauvaises manipulations, de manipulations à chaud ou de choses comme ça. Et ils disent, en fait, c'est problématique parce que personne n'évalue ça. Et ils disent, c'est pas normal, quoi. Mmh. Et notamment, j'ai lu un article assez intéressant sur quelqu'un qui suit, un médecin qui suit l'équipe de France d'athlétisme junior, donc pas les adultes, mais les plus jeunes, et qui était épaté. Non, mais je veux dire, pas celle qu'on voit à la télé. Celles qui vont devenir un jour des grandes championnes. Et ben, en fait, il disait, ce qui était épatant, c'est qu'elles arrivaient avant tout avec le nom de leur ostéopathe que le nom de leur médecin. C'est-à-dire que le premier nom qu'on leur donnait, c'était le gars qui les manipulait ou la nana qui les manipulait. Et il dit, mais c'est pas logique, quoi. Normalement, dans le sport, le premier nom qu'on connaît, c'est celui de son médecin.
Oui, ce qui veut dire que ça, c'est encouragé par les ligues, etc.
Voilà. En fait. Et il faisait la remarque que lui, il suivait donc ses équipes depuis bientôt 30 ans. Et il disait, ce qui est nouveau, c'est que dans les plus jeunes, qui donc sont très, très, très enclins à aller voir ce genre de praticien, il a plus de blessures que les années précédentes, alors qu'on a amélioré les techniques sportives. Okay. Donc il dit c'est pas logique. Il dit on a amélioré pour que les choses soient moins impactantes et elle se retrouve avec des blessures complètement surréalistes. Et notamment il disait c'est le cas des ligaments croisés qui ont tendance et il expliquait ce médecin. Alors il a pas de preuve. Hein, il dit moi j'ai aucune preuve. Il veut qu'on évalue. Mais il dit évidemment si vous avez quelqu'un qui a chaud et qu'on manipule le genou brutalement quand quelqu'un a chaud, vous pouvez abîmer les ligaments. Mmh. Voilà. Okay. C'est l'exemple qu'il donnait. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je le redis, moi, c'est pas parce que plein de gens y croient que cela existe ou est efficace. C'est un peu comme les dieux et les autres superstitions. Hein, c'est pas parce que tout le monde y croit que ça existe. Donc je vous invite à interroger vivement ces pratiques de l'ostéopathie, à m'écrire si vous n'êtes pas d'accord pour me dire t'es qu'un con, ou alors pour me dire moi j'en connais un que c'est un vrai, et puis on pourra en parler, mais vraiment. Et puis surtout, moi je vous encourage à rester toujours sceptique et critique, parce que quand des gens ont besoin que de Bac+3 pour vous manipuler dans tous les sens et vous faire craquer le dos, je me dis que si le type qui est spécialisé, lui, dans les articulations et tout, il a fait Bac+9, il manque 6 ans.
Mmh. Je trouve que finalement, ça revient toujours un peu à ce qu'on dit souvent, en fait, dès qu'il s'agit de science ou autre, en fait, c'est qu'on a un vrai... Alors, je sais pas si ça c'est propre à la France, quoi. Mais il y a une vraie.
La France est très prégnante à toutes les superstitions.
On a hyper. En tout cas, le camp progressiste, révolutionnaire ou autre, on a vachement abandonné tout ce champ matérialiste, en fait. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant de se dire que la France laïque, machin, on a tué les dieux. En fait, on a déplacé.
Hein.
On a déplacé, en fait. C'est-à-dire que.
Le mouvement spirit était très très présent. Par exemple, pour le spiritisme, était extrêmement présent à Paris, par exemple. Il était présent dans d'autres capitales, au Royaume-Uni, voilà. Mais sauf que à Paris, il avait quand même pignon sur rue. Il y avait des grands artistes qui étaient dedans.
Intéressant, flippant peut-être, hein, mais intéressant quand même dans cette.
Ouais, puis on est le
aversion pour les croyances, quoi.
Ouais, puis on est le pays des rabouteux. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, hein, d'ailleurs, sur qui a écrit un livre qui a pas plu aux ostéopathes. Hein, il dit les ostéopathes sont les rabouteux d'aujourd'hui. C'est-à-dire on croit que parce que les rabouteux n'avaient pas de pouvoir spécifique. On sait aujourd'hui, ça a été étudié, qu'en fait c'est simplement que le fait de manipuler quelqu'un, de donner l'impression qu'on faisait quelque chose, faisait du bien, mais c'est souvent un effet placebo et c'était pas un effet à long terme et tout ça. Bon. Donc les gens ressortaient en disant je vais mieux, puis bon, deux jours après ils avaient oublié qu'ils allaient mieux deux jours avant, quoi. Mais en fait, c'est ancré dans la culture populaire, et donc du coup c'est compliqué parce que du coup les ostéopathes sont arrivés à remplacer les rabouteux dans les villes. C'est ce qu'il expliquait dans son livre. J'avais lu des extraits, pas le livre en entier, mais il expliquait ça en disant les ostéopathes, c'est les rabouteux des villes. C'est parce que en ville, on n'ose pas dire je vais voir un rabouteux. Ose dire je vais voir un ostéopathe. Vous voyez, c'est un peu ça fait plus classe. Mais en fait, voilà, le gars disait ils ont pris l'espace en même temps que l'urbanisation. C'est-à-dire qu'ils ont créé quelque chose qui rendait acceptable une pratique qui finalement est une croyance. Voilà. Et c'est, je trouve sa démonstration assez juste. Je pense pas qu'il se trompe en plus. Voilà.
Ouais. On passe à la musique.
Ouais, d'abord un petit bout d'Elisabeth Borne.
Ça va avec.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023.
Trop les retraités
49-3
Longue journée à l'Assemblée
49-3
Et voilà, c'était Dalbéton dans la causerie avec le titre tout à fait d'actualité 49.3. Et donc un titre qui nous rappelle que bah, quand ta voiture est mal garée, 49.3. Voilà, donc puis je fais un truc un peu moins drôle parce que le titre est très drôle. Je voulais juste avoir une pensée pour le militant, le jeune, très jeune militant d'ailleurs, qui à Sainte-Soline est aujourd'hui entre la vie et la mort après avoir été a priori heurté par hasard, par une grenade de désencerclement.
C'est étrange.
Truc qui arrive des fois, vous savez. Voilà, non, mais c'est assez horrible. Donc, ses parents sont très choqués. Lui, bah, il est dans le coma. Donc, pour l'instant, voilà. Et donc, du coup, bah, son pronostic vital est prononcé. Et les
engagé.
Et les médecins ne sont pas ultra optimistes. Donc, voilà, du coup, je voulais avoir une pensée pour lui. Et puis, pour toutes celles et tous ceux qui, en ce moment, en prennent plein la gueule, juste pour dire on ne veut pas travailler plus.
Bah ouais.
C'est juste ce qu'on dit, hein. Voilà.
C'est ça, mais il ne faut pas défier la République, enfin.
Voilà.
Elle seule a la légitimité de vous frapper. C'est ça,
c'est
en fait.
C'est ça, exactement.
Hein. C'est la légitimité de la violence étatique.
Et on va partir sur un sujet.
Tout autre.
Alors, tout autre, mais pas tellement plus léger, finalement. Un peu,
ah,
mais
non.
Pas. Voilà. Mais...
Oui, bah, forcément, quand c'est moi, c'est rarement léger, non,
non
je crois.
Non, ça arrive.
Ouais. Ça arrive des fois.
Ouais, on prévient.
31 février. Alors, ce soir, je vais vous causer d'un manga, pardon, dont je vous avais parlé dans la causerie 343, qui date du 26 avril 2020. Et oui, déjà. En même temps, la petite causerie a entamé sa 11e année. Donc, Elle ne rentre pas, celle de mon mari, bah, c'est le titre de ce manga, toujours aux éditions Le Lézard Noir. Et à l'époque, en fait, donc en avril 2020, le tome 2 devait sortir 2 mois plus tard. Bon, là, 3 ans après, hein, je vous rassure, tous les tomes, les 5 au total, sont sortis.
Mais alors, je crois qu'il y a eu le Covid, tout ça, au milieu.
Ouais, oui, c'est vrai, parce que le 5 est sorti,
ouais.
Je crois, en 2022. Donc, il y a un an.
Il y a vraiment eu la période Covid qui n'a pas
du
tout aidé.
Je pense que ça n'a pas aidé. Alors, pour rappel, hein, ce manga est né à la suite, en fait, de la parution et du succès, vraiment d'un vrai succès au Japon, en 2018, du roman autobiographique de Kodama. Et au dessin, c'est la mangaka Yukiko Goto qui assure le dessin et toujours Miyako Slocombe pour la traduction. Et ce manga donc, alors, hein, j'y viens. Alors, on retrouve donc hein, Sachiko Tori et Shin Kuramoto. Sachiko, elle a 22 ans et après son diplôme universitaire, eh ben, elle trouve un taf dans le même département que Shin, qui lui est déjà en poste et très pris par son taf de prof. Hein. Et là, déjà, direct, on rentre dans la centralité du travail au Japon. Hein. Enfin, je veux dire, pour celles et ceux qui suivent un peu le Japon au niveau du taf, c'est quand même... C'est quand même assez phénoménal. Donc, dans son boulot, hein, évidemment, je dis ça comme ça, mais elle aura droit au sexisme, à des remarques sur son âge, évidemment. Même si elle s'amuse un peu de son boulot au début, ben, ça commence à... ça chute assez rapidement. Et dans sa vie aussi, toujours cette obsession de la queue de son mari qui ne rentre pas.
Le sexe, tu veux dire?
Elle le dit comme ça,
ah,
la queue de mon mari qui
d'accord.
ne rentre
oui,
pas.
Non, mais c'était pour
on peut dire le sexe, le
non,
pénis,
mais c'était, voilà,
tout ce que vous voudrez mettre à la place. Et cette culpabilité aussi qu'elle traîne, et pas que pour le sexe en fait. Si son mari Shin souffre, bah forcément il souffre plus qu'elle, c'est toujours selon elle. Hein. Et tout cela se passe aussi toujours dans un non-dit permanent. Hein. Le silence est maître, l'interprétation est reine. Pour rappel, elle ne rentre pas celle de mon mari, et pourtant, il et elle persévèrent à tenter de le faire rentrer, hein, de la faire rentrer. Pourtant, il et elle acceptent que Sachiko pleure à chaque fois qu'une pénétration est tentée, à chaque fois elle a mal, à chaque fois elle termine en sang. Et le silence est toujours maître. C'est toujours, elle va, limite, s'il n'y a pas du silence, ça sera des excuses. Elle s'excuse d'être en sang après une tentative de pénétration. Mais chacun, chacune hein, tentera d'y faire face à sa manière. Alors ça peut être de la fuite ou pas, mais c'est en tout cas comment on réagit face à une situation. Alors Shin, lui, ben, ça sera en allant voir des prostituées. Et Sachiko, elle, ça sera par l'écrit. Alors sur un blog, hein, elle pose sa vie, ses problèmes, ses douleurs, ce qui va l'amener à parler avec des mecs. Et on comprendra plus tard pourquoi, parce que ce site, en fait, c'était pas vraiment qu'un site d'auteur et d'autrice. Et parler avec des mecs et même en rencontrer, en fait. Sauf que là, ça tourne au louche, au rapport que j'ai pas vraiment perçu pleinement consenti, ou en tout cas, je sais pas comment dire, en tout cas dans cette ère dans laquelle on est aujourd'hui, on aime bien vraiment verbaliser, visualiser des choses. Là, c'est pas le cas. Donc on est vraiment, enfin il y a quelque chose de toujours un peu étrange.
Alors il y a aussi un choc culturel, oui, hein, avec, oui, la culture japonaise.
Aussi. Je pense aussi.
Il faut lire d'ailleurs. Tu parlais de Kodama, hein, qui a écrit le roman. Kodama, elle a fait beaucoup d'articles au Japon sur la condition des femmes et elle a beaucoup d'interventions où elle explique justement que l'un des grands problèmes de la culture japonaise, c'est le silence et le fait qu'on part du principe que les femmes sont automatiquement consentantes.
D'accord, oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement
et
ça.
Elle explique ça régulièrement.
C'est exactement ça, en fait.
L'un des vrais problèmes au Japon, et c'est alors, bien sûr, on peut dire que c'est pas propre au Japon, mais ouais, là, en l'occurrence, on parle du Japon,
oui,
et elle le souligne. C'est ça, elle le dit. Moi, j'avais lu un article d'elle dans Tempura, qui est un magazine qui parle du Japon, où elle expliquait ça. En fait, elle dit, le problème, c'est que, au Japon, en fait, à partir du moment où une femme dit oui pour un rendez-vous, par exemple, l'homme, en fait, entend en face, ok, on va coucher ensemble.
Ouais. Et c'est exactement ça, en fait.
Et qu'en fait, elle dit non, en fait, vous pouvez avoir envie de rencontrer quelqu'un, et puis ça s'arrête là, et puis vous avez bu un verre avec lui, et voilà. Et elle dit, en fait, même les femmes japonaises sont tellement conditionnés dans cette culture-là, et comme ça peut être le cas d'ailleurs aussi encore une fois, on prend l'exemple
on intègre malheureusement beaucoup de.
Et que, elle dit que c'est le premier problème, parce que pour elle, elle dit c'est pour ça qu'au Japon, on peut affirmer, et c'est un peu terrible, qu'il n'y a pas de viol. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'au Japon, aujourd'hui, il y a des hommes politiques, souvent des hommes, qui expliquent que la société japonaise est sûre parce qu'il n'y a pas de viol. Sauf que c'est pas qu'il n'y a pas de viol, c'est qu'on reconnaît pas le viol.
Si
c'est pas tout à fait
pas,
la même chose.
Tu pourras jamais savoir qu'il y en a.
Et voilà, et c'est ce qu'elle soulignait dans l'article en disant que voilà, et je pense que ça se ressent dans son roman aussi.
Vraiment, de ce que tu dis là, oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire qu'une fois que tu acceptes de boire un verre, le reste.
C'est acté.
Serait acté selon les mecs. Et si les mecs sont effectivement étranges, pour certains, il y a des tripes vraiment particuliers. En baisant en fait avec eux, Sachiko en fait, elle va réaliser qu'avec eux, ça rentre. Ouais, elle peut acquérir des queues dans son vagin. Et elle va donc baiser ainsi avec plusieurs mecs. Et c'est là où on peut se demander, en tout cas, je me suis demandé, en fait, si c'était un moyen de se réapproprier son corps, parce que je pense vraiment qu'on peut aussi se réapproprier son corps par le cul en fait. Enfin, vraiment, Sachiko. Je pense vraiment que c'est factuellement.
Par le sexe aussi.
Oui, pardon. Oui, oui, par le cul, c'était. Oui, par le sexe, par la sexualité, par les plaisirs de cet ordre-là.
Tout taquiner sur le cul, sexe.
Non, mais t'as raison. Et ou encore de voir le sexe autrement, ou de s'enfoncer dans sa culpabilité, cette culpabilité, on comprendra au long des différents chapitres, c'est quelque chose qui est construit depuis toute petite, avec une mère violente, dénigrante, etc. D'ailleurs, sa déclaration, que je vais vous citer, qui est tirée du manga, comporte toute cette ambiguïté, en fait. Je la cite, ces relations légères, où seul le corps était en jeu, m'ont beaucoup sauvé. Tandis que mes partenaires comblaient leurs désirs sexuels, je salissais mon cœur et mon corps sans réfléchir, mais qu'étrangement, ça me rassurait de rencontrer des gens aussi détraqués que moi. J'avais l'impression de me regarder à travers eux. Et je trouve que cette déclaration, elle comporte toute cette ambiguïté-là, quoi. Donc, ensuite, Sachiko démissionnera, poussant encore un peu plus la culpabilité et la déprime, toujours accompagnée du dénigrement de sa mère, ça c'est un truc qui va la suivre tout le temps. Et toujours aussi cette obsession, cette culpabilité de la queue de mon mari qui ne rentre pas, même lorsqu'une maladie sera diagnostiquée. C'est terrible en fait. Enfin, vraiment, elle porte tout sur ses épaules.
C'est le principe même d'une société patriarcale. C'est que c'est les femmes qui portent tout sur les épaules.
Elle est responsable à peu près tout. Viendra aussi alors la pression sociale d'avoir un enfant. Parce que quand on a 25 et plus. Faut un enfant, quoi.
Surtout qu'il faut se rappeler qu'au Japon, il y a une grosse culture. Oui. Ils poussent à la natalité en ce moment. La pression est forte.
Et là, on peut s'interroger aussi, en fait. Est-ce que finalement, quand on aborde ce sujet d'avoir des enfants, est-ce que c'est la pression sociale ou est-ce que c'est notre propre envie, notre propre désir, en fait. Et puis le désir des deux, toujours pareil. Et ça, en fait, là aussi, ça va être un épisode qui va la renvoyer à sa propre enfance. Cette peur d'être aussi tyrannique que sa mère. Et là, pour le coup, pour une fois, Shin est plutôt rassurant, ce qui est rare. Mais avoir un enfant entraîne plein de choses, etc. Et ils vont devoir, encore une fois, là, après certains choix, devoir faire face à cette pression sociale, à cette pression familiale. Malgré tout, en fait, malgré tout ça, en fait, hein, Sachiko et Shin trouveront le chemin vers un équilibre, même si ça passera encore par des douleurs, des pleurs, du sang, ainsi que par le silence. Ça passera aussi pour elle, par l'écriture, sur le bon support cette fois, qui deviendra un livre qui sera publié, qui rencontrera un succès retentissant, que Shin découvrira et qui lui la poussera vraiment à continuer en fait. Et en fait, c'est un peu le livre qu'on est en train de lire en fait. Alors comme je le disais en fait, hein, déjà il y a 3 ans, en fait, ce manga, pour moi, il interroge énormément de choses. Alors c'est jamais, enfin c'est jamais. C'est pas que glauque en fait, j'ai envie de dire. Il y a des traits d'humour, il y a des choses, voilà. Enfin, et puis il y a aussi de l'entraide. Et puis, enfin, voilà, c'est pas juste un truc sombre. Il y a plein de choses, hein, parce que la vie n'est pas que sur une teinte de gris. Donc voilà. Et en fait, ça se confirme. Enfin, je le disais il y a 3 ans déjà avec le premier tome, mais en fait là, avec les 4 suivants, c'est vraiment confirmé. Et c'est toujours, enfin, c'est toujours pareil. Ouais, c'est l'amour est-il synonyme finalement de sexe? Peut-on aimer sans sexe? Le sexe est-il forcément une pénétration? Et le dialogue dans le couple? Le silence dans le couple? Quelle place pour nos individualités dans le couple? Quelle attention à l'autre? Parce que là aussi, enfin, ce que je vous disais avant, c'est que j'étais frappé, moi, par la passivité hallucinante de Shin, en fait. Enfin, il propose pas d'alternative. Il fait avec le sang, les douleurs, les larmes de Sachiko. Et tu te dis, mais en fait, mec, réveille-toi, quoi.
Il est au reflet de la société japonaise et de la façon dont les hommes et les garçons, notamment les jeunes garçons, sont élevés au Japon.
Bah, c'est toujours pareil. Patriarcat, il formate tout le monde.
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, les gens se rendent pas compte, mais même quand un groupe d'idols, vous savez, ces jeunes chanteuses font une chanson qui est jugée trop féministe, c'est quand elles disent par exemple « je veux avoir le droit de m'habiller comme je veux ». Et ça, c'est considéré comme trop féministe. Donc, on par beaucoup de commentateurs au Japon. Donc, on imagine bien la pression qu'il y a encore et le courage qu'il faut aujourd'hui au Japon pour les militantes féministes.
Clairement. Ouais. Et aussi, quelle attention à soi, en fait. Parce que, en fait, aucun mot, aucune consultation ne viendra poser ce mot de ce qu'elle... qui pour moi en fait elle aurait, on s'approche du vaginisme en fait. Il y a des mots en fait qu'on peut poser. Et en fait ça ne sera jamais posé en fait. Il y a vraiment un silence qui plus est quand ça touche l'intimité. J'ai l'impression que c'est encore pire quoi. Et en même temps ça je pense que c'est pas qu'au Japon non plus. Hein. Et la famille en fait se fait-elle forcément avec des enfants? Ces enfants sans enfants fait-on famille? Ou du moins fait-on couple? Hein? Est-ce qu'on a le droit au moins d'exister sans enfants? Et nos familles, en fait, sommes-nous obligés de les supporter? Quelles limites poser? Un couple est-il légitime sans l'approbation de la famille, des familles respectives? Quel regard sur les gens en marge? Quelle place pour les individus qui tentent d'être, juste d'exister, d'être avec leurs aspirations, etc. Alors peut-être que j'extrapole, hein, c'est fort possible, hein, mais il me semble quand même que si un témoignage perso, effectivement, ne change pas la face du monde, on est bien d'accord, ne politise pas forcément non plus hein, tout ce qui va... l'entourer, bah il peut quand même, selon moi, nous amener à nous interroger, à interroger nos individualités, nos vécus, les sociétés dans lesquelles on évolue, les différences de sociétés dans lesquelles on peut être, etc. Et en fait, bah, nous montrer peut-être la route qu'il reste à faire. Et finalement, d'ailleurs, est-ce que cette route aura un jour un stop? Je suis pas sûr. Hein, je pense que plus on s'en approche et plus on continuera d'aller dans cette aspiration de société différente. Donc voilà, donc je ne vais pas en dire plus parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Donc je rappelle, hein, c'est Elle ne rentre pas, celle de mon mari, en 5 tomes aux éditions Lézard. Et c'est trouvable bah, soit directement sur le site des éditions Lézard, sinon vous avez... alors quand vous avez la chance d'être dans une grande ville, vous avez souvent des spécialistes du manga, des boutiques spécialisées. N'hésitez pas, même s'ils ne les ont pas en rayon, ils peuvent vous les commander. Ou d'ailleurs, même chez un libraire basique, je pense qu'on peut arriver à commander. Parce que le manga, j'ai l'impression qu'il commence vraiment à sortir...
Oui, ça sort un peu des trucs
spécifiques, uniquement spécifiques. Ouais, c'est ça.
Moi, je voulais juste dire qu'il y avait quand même une adaptation qui avait existé.
Oui, à l'époque, quand j'avais présenté le premier tome...
Voilà, qui s'appelle My
Husband Won't Fit.
Voilà, et qui est donc sur une plateforme avec un rouge, mais qui peut vous trouver aussi sur internet assez facilement et qui est aussi très bien pour comprendre aussi les silences.
Oui,
justement quand on comprend pas. Et puis si vous avez jamais vu Kodama qui est l'autrice et que vous voyez ensuite le manga et l'actrice qui a été choisie pour la représenter, vous allez vous rendre compte que la similarité de physique est assez troublante dans le sens où il y a quand même assez peu de comment dire de de secret sur le côté biographique du roman, y compris dans sa description d'elle-même et des personnages.
Et juste dernier point aussi, en fait, c'est que chaque tome, en fait, se termine par les échanges écrits entre Kodama et Yukiko Goto, donc la mangaka. Donc c'est très intéressant aussi, parce que Kodama va dire par exemple, t'as donné une tournure un peu différente finalement à cette scène que moi j'ai vécue. Ouais, donc c'est hyper intéressant en fait, et il y a vraiment un rapport qui se fait entre elles, et que c'est assez beau et assez touchant aussi, cet échange finalement entre les deux et Yukiko Goto, qui est forcément pas toujours sûr non plus, je crois, de tout ce qu'elle fait. Moi j'ai beaucoup apprécié, parce que je trouve que ça permet, sans être dans un truc typiquement militant, d'aborder des choses et de voir en fait ce qui reste à faire.
Et rappelle-moi la maison d'édition.
Le Lézard Noir, édition Les Lézards Noirs.
On peut les remercier parce qu'ils sortent beaucoup beaucoup de mangas.
Ah mais c'est une boîte spécialisée dans le manga.
Oui, mais ils vont chercher des mangas moins grand public et des fois plus atypiques, on va dire.
Ouais, sûrement. J'ai pas une connaissance suffisante du monde manga, mais effectivement, on sort de mangas avec lesquels on a pu grandir, mais encore, on parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent pas, quoi.
C'est pas One Piece, par exemple.
On est d'accord.
Voilà, et c'est-à-dire que, non, mais j'ai rien contre One Piece, en plus. Génial, mais c'est juste que c'est pas ce type de manga-là.
On est vraiment dans du manga réaliste, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, quoi. Et ben, je propose qu'on passe à la ZIC.
Je te côtoie depuis l'enfance, depuis le jour où je débarque en France. À l'époque j'avais confiance, t'étais celle que les bancs de l'école encensent. Les manuels semblaient tous unanimes, ta maxime avait toute mon estime. En trois mots j'étais conquis, j'avais compris. Tu portais le cri que le peuple exprime, légitime, bienveillante, généreuse, solidaire, accueillante. Que de vertus, que de compliments, ton bilan paraissait concluant. T'avais tué l'Empire et les Sangs Bleus, fait des lois pour étrangler les temples. T'as fait trembler les grands, crever l'écran, t'étais celle qu'on érige en exemple. Répugnant république, répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un grand oui pour soi, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république, répugnant république. Avec toi le pape m'a fait plus changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. J'apprends les heures sombres de ton histoire, l'envers du décor de tes victoires. La mémoire chargée de sang t'a défendu l'étendue de ton territoire. J'apprends que derrière ta bonhomie se cache l'économie de tes colonies. Assaï, vassaï, rafolomie, quand le troll autochtone enrichit tes lobbies. J'apprends les barbouzes, la France-Afrique, la ronde des valises diplomatiques. J'apprends la Dochine, j'apprends Papon, j'apprends Sétif et ton goût des canons. Soudain la candeur ses disciples, je me méfie de tes disciples. Tant de déni, de crimes indicibles, soudain j'accuse et renie ton hémicycle. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp où il est pour soi, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Avec toi le pape on a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Les brasseurs de vent et les bourricots. Langue chloroforme, langue de bois. Tes phrases sont creuses, elles manquent de poids. Règne du faux débat, peste, choléra. Tes porte-voix me mettent hors de moi. La sécurité dans toutes tes bouches. La peur de l'autre chez le français de souche. Que de la haine sous toutes ses couches. Sans passe s'écrase les pauvres comme des mouches. Rétrograde, phallocrate, élitiste, raciste et mensongère. Ok, soyons clairs. Si je t'insulte, c'est volontaire. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp, oui, bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Avec toi le pape, on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain.
répugnante république. Avec toi, le bâton n'a fait que changer de main. Et je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Tiens, ça aussi, ça a une certaine consonance avec tout ce qui se passe ces derniers temps,
bah oui.
Où le bâton est beaucoup agité par celles et ceux qui sont là pour défendre la République.
L'ordre public.
L'ordre républicain.
On dirait Monsieur Darmanin. Hein.
Et nous venons d'écouter donc un titre de La Canaille sur son avant-dernier album, je crois, voire avant, qui s'appelait donc République. Et vraiment, enfin, c'est...
Bah, c'est La Canaille. Hein.
C'est La Canaille.
C'est La Canaille, je crois que tout ce qui touche, c'est bien.
C'est ça.
C'est ça qui est fou.
Il y a un peu de ça. Et ben, on passe aux brèves, tranquillement.
Ouais.
Alors, les brèves, le premier rendez-vous, c'est demain, pour celles et ceux qui le peuvent. Ça sera à 11h, à la Métropole, rue du Lac, pour demander, en fait, qu'une délégation soit reçue par la Métropole, hein, au sujet des mineurs isolés. Parce qu'en fait, il se passe rien en fait. Hein.
Ah ben, on peut dire ça.
C'est la Métropole en fait a été contactée il y a 15 mois par celles et ceux qui s'occupent des mineurs isolés. Et en fait, il se passe rien, il n'y a jamais eu de réponse, n'ont jamais été reçus, et ça s'appelle du mépris en fait.
Oh ben, ils n'ont pas le temps.
Donc c'est marrant en fait, le mépris en fait... On peut le rencontrer avec beaucoup de personnes qui servent l'État, surtout au plus haut niveau, j'ai l'impression. Donc voilà, si vous voulez soutenir les mineurs isolés et celles et ceux qui sont avec eux, c'est donc demain, 11h, devant la Métropole. Voilà.
Et alors moi je voulais juste te rappeler qu'on les avait reçus dans l'émission pour certains. Donc vous cherchez, vous allez trouver l'émission, c'était très cool. Voilà.
Ouais.
Donc du coup aussi demain il y a un rassemblement contre la réforme des retraites. Le 27, donc si c'est demain.
Ah ben si.
Bah, si demain.
Si
il y a un rassemblement demain et une manif. Donc demain rassemblement contre la réforme des retraites le 27 mars à 12h30 à la manufacture des tabacs contre la réforme des retraites et contre cette réputation de faculté proche des idées d'extrême droite. Un appel à rassemblement a été appelé ce lundi 27 mars à 12h30 dans la cour sud de la manufacture des tabacs. Venez avec vos pancartes, participez au réveil de Lyon 3 et contrez les fascistes de la cocarde étudiante et de l'Uni. Voilà, oui, parce qu'après tout, allons au bout du truc. Et moi, je voulais juste te dire que si vous pouvez pas aller à Lyon 3, il y a plein d'endroits où il y a des piquets de grève et que, alors, on parle beaucoup des caisses de solidarité, tout ça. Allez déjà voir les grévistes sur les piquets de grève, allez discuter avec eux, vous verrez, c'est sympa. Et puis surtout, des fois, vous verrez que c'est pas la caisse de solidarité qu'ils ont besoin, c'est de solidarité. C'est sans la caisse. Voilà. Vous verrez que c'est vachement bien aussi. Enfin, tentez le coup.
Yes. Et alors après moi j'ai pas l'heure mais mardi 28 hein, c'est une nouvelle manif.
13h manufacture des tabacs.
13h manufacture des tabacs donc à Lyon, il doit y en avoir aussi une manif à Villefranche-sur-Saône, c'est souvent les après-midi aussi.
16h30 au Promenoir.
Promenoir. Voilà, donc vous avez les deux rendez-vous, enfin les plus proches en tout cas de Lyon, si vous êtes de la région.
Ouais, on va rappeler deux, trois petits trucs quand même, c'est qu'en ce moment les forces de l'ordre ont tendance à un peu faire de la provoque, voire beaucoup faire. Un petit peu beaucoup, hein, ils font de la provocation. On l'avait vu hein, déjà dans les précédentes manifs, hein, où ils se sont mis à gazer au milieu du parcours, on sait pas pourquoi, et pas, voilà.
Mais si, on sait pourquoi.
Ah non, mais là,
leur chef l'a dit, c'est parce qu'ils sont fatigués.
Ouais, c'est ça, ouais, les pauvres.
Bah, faut pas leur mettre d'armes entre les mains, parce que, ils allaient se reposer, quoi. Enfin, je veux dire.
Donc, on va rappeler deux, trois petits trucs, hein, c'est déjà de rester groupé, ne vous isolez pas, essayez d'avoir du sérum phi sur vous, c'est pas interdit, hein, d'avoir du sérum physiologique sur soi, hein, donc voilà.
C'est parce que si ça gaze, etc., pour que.
C'est rincer les yeux, ça fait du bien.
Les vôtres, ou ceux de celles et ceux qui sont à côté de vous.
Ouais, et puis, ben, rappelez-vous aussi que ben des fois il faut aussi éviter entre guillemets je mets des guillemets à éviter de courir dans tous les sens, essayez plutôt de vous grouper et de courir ensemble, donc voilà, parce que des fois ben on voit des gens partir puis ils se rentrent dedans, donc faites attention, ben, pas de mouvement de foule, et puis ben surtout ben, rester groupé, c'est surtout le truc le plus important, je vais redire, parce que c'est comme ça qu'en fait on évite de se faire trop mal tout simplement, voilà. Et puis on sait qu'en ce moment ils lancent des trucs sur les gens.
Oui, donc faites gaffe quoi.
Donc faites gaffe.
C'est pas pour faire peur.
Du tout, hein, parce que je pense sincèrement que.
En fait, là, on est en train, le pouvoir est en train de mettre en place une politique de la terreur. Il va vouloir faire peur à tout le monde.
Comme à chaque fois.
C'est exactement ça, pour que plus personne n'aille en manif. Comme ça, le mouvement, il va crever de lui-même en fait. Sauf que c'est une pratique, c'est une tactique de l'État. Ouais, qui, voilà, qui détient, encore une fois, on le répète, la légitime violence.
Mais ça, c'est parce qu'on veut bien lui donner la légitime violence. Moi, je vais rappeler juste quelque chose, c'est que le Macron pariait sur un pourrissement. Il a même fait des sorties provocatrices le 22 en disant que le 23, il n'y aurait plus personne dans les rues et qu'il resterait que les quelques radicaux de la CGT et les plus radicaux des Black Blocs, comme ils disent. Et voilà, c'était Darmanin qui avait dit ça, qui avait dit de toute façon, demain, on verra que ça. Ça a été reporté par plusieurs journalistes qui ont remonté l'info. Bon bah pas de bol, hein, il s'est retrouvé avec plus de monde que les fois d'avant et enfin pas de bol, c'est pour lui parce que pour nous c'était génial. Et donc du coup une fois qu'ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Il faut créer de l'événement, il faut créer de l'image choc, il faut donner à manger à des chaînes d'infos continues parce que ça fait bien de mettre du gaz lacrymogène. Moi je vais vous donner un exemple, hein, c'est que je vous le dis, j'étais à Paris, je sors d'un cinéma, c'était les premières manifs du soir et j'ai été poussé dans une bouche de métro avec plein de jeunes et on a été descendu, c'est-à-dire une bouche de métro dans un escalier, hein, je vous parle, par une bonne vingtaine de gars avec des boucliers, donc qui étaient CRS ou je ne sais quoi. Ensuite, on m'a séparé, moi, parce qu'on a dit que donc le vieux gros ne devait pas être avec eux. Je vous laisse admirer le bien parler de ces policiers.
T'as encore de la chance.
Encore, j'ai pas été insulté. Hein,
c'est donc, ça, voilà. T'as pas la peau noire.
Voilà, je suis pas. C'est ce que je veux dire, c'est qu'en plus, mais on voit bien le degré de bêtise qu'il y a et de voilà. Et pour qu'ensuite, on me pousse avec une autre personne à trois avec un bouclier pour m'obliger à aller dans plus loin que je ne vois pas ce qui se passe. Donc en fait, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Alors moi, c'est rien, je vous raconte ça, c'est pas pour dire, oh là là, le pauvre, j'ai rien, tout va bien, mais c'est juste que vous voyez le climat dans lequel on est en train de mettre les choses, et quand d'un seul coup on veut cacher et empêcher qu'il y ait des choses qui soient vues, c'est parce qu'en fait dans le même temps, vous avez tout ce qui est sorti aujourd'hui, notamment sur les gens qui ont été interpellés par la fameuse Brave M, avec ce que vous pouvez entendre, hein. Il y a Loopsider qui a sorti quand même les enregistrements, vous allez écouter comment les flics parlent à vos gamins, si vous êtes parents.
C'est-à-dire qu'ils ont dû se dire, tiens, on va faire prendre une partie des fachos de la police, on va les mettre sur des motos,
ça va être
comme ça on leur trouve une occupation et effectivement c'est vraiment un flot de haine et de violence absolue quoi.
Et je vais rappeler quand même que Alliance Police est le premier syndicat de policiers en France, très largement devant les autres, et rappeler que ce syndicat est un syndicat d'extrême droite, et il va falloir quand même qu'on se le dise à un moment donné. Voilà.
Ouais.
Mais donc continuez à sortir, n'ayez pas peur de la police, restez juste groupés, et plus on sera et moins ils pourront faire grand chose, parce que bon, quand on est plein de millions, en fait ils peuvent pas faire grand chose.
On peut pas diriger par la peur des millions de gens.
C'est ça, exactement. Allez, sur un tout autre sujet, j'annonce. C'est bizarre de dire ça comme ça. Donc il y a le festival Diverses gens. Deux du coup, qui c'est une semaine autour des neuro et physiodiversité du 28 mars au 2 avril. Alors divergence, pourquoi j'ai du mal à dire, c'est que c'est diverse avec un X tiret Jean GNES. Donc voilà. Et donc c'est un festival qui s'ouvre. C'est une semaine autour des neuro et physiodiversité, comme je disais. C'est programmé par Café Autiste Adulte Lyon avec le soutien de la Griffe, de l'association Handiqueer La Marginale et avec en plus cette année l'atelier des canulars et l'atelier de sérigraphie Chalopin. Et donc le 2 avril, c'est l'ouverture à l'atelier des canulars. Et ben comme vous irez à l'ouverture, vous prendrez le programme, parce que je vais pas vous lire tout ce qui se passe, mais il y en a toute la semaine, il y a quelque chose tous les soirs.
Il y a des rencontres,
il y a des ateliers, il y a des tables rondes. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, hyper intéressant, je vous le dis franchement. Donc voilà, hésitez pas à aller voir le festival Diverses gens. Voilà.
Et dernière petite info qui là aussi est dans le thème, hein, groupe Soins, on en a déjà parlé, c'est un groupe autogéré, on va dire, autour du soin, au sens assez large. Et là, en fait, c'est c'est un temps d'échange et de discussion sur les blessures en manifestation. Hein. Donc voilà, comment prendre soin les uns les unes des autres, que mettre dans notre trousse de secours, échange de trucs et astuces et discussion autour des situations vécues. Donc, c'est rendez-vous à la librairie La Griffe, si je ne me trompe pas. Donc, mardi 28 de 18h, si je ne me plante pas, ou de 19h à 21h, et c'est dans le 7e arrondissement. Voilà. Et ben c'est tout. On se quitte.
Mais c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22h20. 23h à l'antenne de Radio Canu et on se quitte avec
alors en ce moment vous les entendez beaucoup avec un titre qui fait la retraite à 60 ans. Bon, on s'est dit on va pas vous passer celui-là parce qu'il est dans toutes les manifs, voilà. On va plutôt vous passer Tu veux baiser des Vulves Assassines. Voilà, un titre pour tous ces messieurs qui demandent à des jeunes femmes tu veux baiser.
C'est voilà. Ça. Et ben voilà. Rendez-vous dimanche prochain, 22-23, sur l'antenne de Canu. Bonne semaine, bon courage à toutes et à tous.
Et puis
face à la répugnante République.
Et des bisous.
Bisous.
Ciao. obéissante, Poissy, vous a envoyé un message.
Qu'est-ce que c'est ? Oui, non, peut-être ! Qu'est-ce que c'est ? Oui, non, peut-être !
Non, je ne veux pas baiser. Une beurette, c'est bon pour les tartines. Conseil, mon ami, beurrez-vous la pine et mettez-vous là dans l'oreille. Je ne veux pas de votre oseille. C'est simple, si le Maghreb vous fascine, achetez un plat à tagine.
Bonne idée, un plat à tagine.
Soumise, Roussin, à 2 km, vous a envoyé un message.
Qu'est-ce que c'est ? Oui, non, peut-être ! Qu'est-ce que c'est ? Oui, non, peut-être !
Non, je ne veux pas baiser. Si vous êtes amateur d'antiquité, je peux vous céder à prix très bas. Un vaisselier en formica. Années 60, buffet, placard, une belle affaire. Vous pouvez me croire, vous y rangerez votre lit de cuillère, vos poils de cul et vos dessous pierres.
Bonne idée, un vaisselier en formica.
Chienne étudiante, pour première fois dormi, vous a envoyé un message.
Qu'est-ce que c'est ? Oui, non, peut-être ! Qu'est-ce que c'est ? Oui, non, peut-être !
Non, je ne veux pas baiser. Votre demande est déplacée. Maman m'attend pour le 4h. Mais si vous appréciez la fraîcheur, plutôt qu'une toute jeune moule, payez-vous une machine à sorbet pour vous refroidir vos deux boules et vous les mettre sous le corps.